locale et associative. Culture et société. Politique. Et même du sport. Du lundi au jeudi, le pédalo, la quasi-quotidienne d'infos estivales de Radio Campus Angers.
Au sommaire du pédalo, accès refusé. Et oui, nouvelle attaque informatique sur les sites internet de la mairie d'Angers et d'Angers-Loire Métropole. Impossible d'accéder aux horaires de la piscine, aux infos pratiques et au programme des accroche-cœurs pendant quelques heures la semaine dernière. Alors pourquoi cette cyberattaque? Comment s'en protéger? On en parle avec Jérémy Paujean, administrateur système, réseau et sécurité à l'ESEP, et Luc Dufresne, responsable de la sécurité du service informatique d'Angers-Loire Métropole. C'est également le retour du Flash Sport de Simon qui nous parle de tout, sauf des Jeux de Paris 2024. Allez, vous savez tout, alors ajustez votre gilet de sauvetage, le pédalo lève les voiles.
Le pédalo sur Radio Campus Angers.
Et tout de suite, on accueille Simon pour le Flash Sport. Et oui, c'est la rentrée du Flash Sport. Salut Simon.
Salut Hugo, ça va?
Super, et toi t'as passé un bon été?
Oui, un très bel été.
Peut-être mieux que celui des joueurs du SCO d'Angers.
Oui, et puis de Bordeaux aussi.
De Bordeaux, voilà. Alors, n'en parlons pas. Ouais, coup dur, là c'est la Nationale 2, c'est dur pour Bordeaux. Bon alors, tu nous as concocté un récap des infos sportives qu'on n'a pas vu passer hein, cet été et ces dernières semaines.
Et oui, hein, parce que les Jeux Olympiques et Paralympiques, ont éclipsé l'ensemble de l'actualité sportive cet été. Mais bien sûr, il ne faut pas oublier nos clubs angevins qui font leur rentrée. Alors pour la plupart, ils n'ont pas encore repris le chemin des terrains. C'est le cas de nos Ducs qui retrouveront la Ligue Magnus dans une semaine en recevant Bordeaux. Le AB, qui malheureusement était relégué en National 1, on le rappelle, débutera sa saison vendredi à 20h contre Pays de Fougères. Et les rugbymen du SCO pourront se mesurer aux joueurs du RC Blésois ce dimanche à 15h15 au Parc des Sports de la Baumette.
Et du côté de ceux qui ont repris, qu'est-ce que ça donne? C'est quoi un peu les tendances en ce début de saison?
Et bah, c'est pas glorieux Hugo. Hein. De retour en Ligue 1 cette année, le SCO a très mal débuté la saison. Les joueurs angevins ont enchaîné 3 défaites d'affilée contre Lens, Lille et Nice.
Et en même temps, c'était un calendrier pas des plus faciles.
Oui, voilà, c'est vrai que les dates sont compliquées, mais voilà, peut-être qu'ils pourront se relancer dimanche face à Strasbourg hein, pour un peu augmenter dans le classement, parce que là, ils sont avant-derniers du championnat. Après, du côté de leur homologue handballeur, ils n'ont guère fait mieux, puisque pour leur premier match de Pro League, ils se sont inclinés devant Besançon. Prochain match vendredi contre Dijon, le relégué de Liqui Moly Star League. Donc un match pas forcément facile à aborder, mais pourquoi pas créer la surprise.
Petit défi pour toi Simon, est-ce que tu aurais vu une info passer sur les JO que même les plus ardents suiveurs n'auraient pas vu passer? Un truc que même moi je sais pas par exemple.
Alors, on va voir si tu me diras à la fin si tu le savais ou pas. Mais je pense que oui, j'ai une info. Alors, lors du marathon féminin des malvoyantes aux Jeux Paralympiques, la concurrente espagnole Elena Congost a terminé 3e. Et son arrivée a fait le tour des réseaux. En effet, son guide a été pris de terribles crampes à quelques mètres de la ligne, obligeant l'athlète à relever son guide et l'aider à avancer jusqu'au bout. Cette séquence, elle a été saluée par l'ensemble des supporters, elle a tourné partout sur les réseaux parce que c'est un superbe geste sportif. Et cependant, malgré ce beau moment d'entraide, les juges ont disqualifié l'Espagnole.
Ah bon, elle a été disqualifiée? Autant j'ai vu la vidéo où elle accompagne son guide, autant je ne savais pas qu'elle avait été disqualifiée.
Et oui, c'est ça l'info, c'est parce que tout le monde a vu son arrivée incroyable, ouais. Mais presque personne sait ça. En fait, elle a été disqualifiée pour avoir lâché le lien qui la rattachait à son guide. Alors, petit rappel du règlement, en fait, ils ont un lien justement qui lie le guide et la malvoyante, qui peut s'étendre jusqu'à 30 cm, mais ils n'ont en aucun cas le droit de le lâcher, et s'ils le lâchent, et ben c'est une disqualification automatique. Et en fait, ce qui est horrible, c'est qu'on voit sur la vidéo, on voit qu'elle essaie de garder le lien, parce qu'elle connaît le règlement, mais enfin, elle peut pas laisser son guide comme ça, s'écrouler par terre, et tout, faut bien qu'elle finisse la course. Et du coup, voilà, sans faire exprès, elle l'a lâché. Et Elena Congost a été privée de médaille de bronze. Et cette décision a forcément créé la polémique.
On imagine évidemment sa détresse. Un petit tour du côté de la planète tennis avec la fin de l'US Open.
Le quatrième et dernier tournoi du Grand Chelem cette saison a presque été oublié avec les Jeux Para.
C'est vrai.
Du moins en France, hein, parce qu'aux États-Unis, la hype, elle était à son paroxysme après la qualification de Taylor Fritz ce week-end en finale.
Ouais, c'est un Américain. Hein.
Exactement. Dimanche, il a tenté d'être le premier Américain à remporter le tournoi depuis Andy Roddick en 2003. C'est un peu comme si un Français gagnait Roland Garros chez nous depuis Yannick Noah. Voilà, c'est à peu près la même chose. Mais bon, sa tentative a lamentablement échoué face à l'irrésistible numéro 1 mondial Yannick Sinner. En effet, l'Italien s'est imposé en 3-7 facilement, 6-3, 6-4, 7-5. Il remporte ainsi son deuxième titre du Grand Chelem après l'Open d'Australie en début d'année. Il fait une très bonne saison.
Et chez les femmes, ça s'est passé comment cette US Open ?
Et bah, c'est aussi une Américaine qui était en finale pour succéder à Coco Gauff. C'était Jessica Pegula, donc d'où la hype, hein, même chez les femmes. En face, la finaliste de l'année dernière, la Biélorusse Arina Sabalenka, un adversaire redoutable. Et donc malgré un match serré, 2-7 ont suffi à Sabalenka pour s'imposer. À croire que les Américains étaient maudits, hein, cette année. Avec cette victoire 7-5-7-5, la joueuse de 26 ans remporte son cinquième titre du Grand Chelem, dont son troisième en simple, et en a gagné deux autres en double.
Et peut-être un petit mot de l'Ultra Trail du Mont Blanc, une des courses les plus prestigieuses au monde.
Et oui, ça s'est déroulé le 31 août dernier, vraiment en plein jeu paralympique, donc pareil, on n'en a pas trop entendu parler. Mais après 176 km, 19h54 minutes et presque 10 000 mètres de dénivelé positif, c'est un amateur qui s'est imposé à Chamonix, à la surprise générale. Son nom, c'est Vincent Bouillard et il a réussi le tour de force de monter sur la plus haute marche du podium sans sponsor et sans tout le staff d'un coureur pro.
Non mais c'est fou ça.
Et oui, et en plus de cela, il est seulement la troisième personne à avoir réussi à terminer l'UTMB en moins de 3 heures, donc c'est quand même une performance presque historique. Et puis chez les féminines, c'est l'expérimentée Cathy Scheid qui l'a emporté. Elle est connue, hein, dans le monde de l'ultra trail, et puis elle a signé un chrono record, 22h, 9 minutes et 28 secondes. Et bah, l'ancien record de plus de 20 minutes, rendez-vous compte. Et puis grâce à cela, elle s'adjuge son deuxième titre sur les terres de Haute-Savoie, une performance historique.
Et Simon, comme toutes les semaines, on reprend les bonnes habitudes. Est-ce que tu as peut-être un conseil de l'affiche sportive à regarder, à surtout ne pas louper pour cette reprise et ce début de saison ?
Oui, alors bien sûr, je vous encourage à aller voir et à regarder les matchs des clubs angevins, hein, parce que c'est faut soutenir notre terroir. Mais tout simplement, je vous propose une superbe affiche de top 14. Dimanche soir, le Stade Toulousain qui reçoit le Stade Rochelet pour la deuxième journée. Quoi
c'est
de mieux
la fiche pour commencer. Hein.
Et oui, c'est vrai, quoi de mieux qu'une rencontre relevée au sommet du championnat pour pimenter sa soirée à partir de 21h. Un choc qui pourrait déjà s'annoncer décisif pour le reste de la saison.
Alors décisif, on ne sait pas, mais en tout cas qui va donner le là, quoi. Qui va donner Mais bon, décisif deuxième journée, Simon, tu t'emballes.
Oui, après c'est parce que c'est deux équipes qui jouent le haut de tableau, donc on ne sait jamais.
Ben merci beaucoup Simon pour ce flash sport et puis à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Certains homo sapiens sont inventés. L'internet. Au début c'était fun mais c'est devenu
un sujet de conquête.
La tyrannie des hommes a fait foirer les normes.
Internet.
L'humanité est dead. Quel est son anathème?
Internet. Attention à la foudre. Est un grand homme qui veut.
Ça sent déjà la poudre. Les conséquences seront lourdes.
Attention à la foudre. Est un grand homme qui veut.
Voici des temps bien troubles. C'est l'heure de nous donner ce qu'on veut. On manipule la plèbe. Va donc voir sur le web.
Les internets.
Exploration du monde. ADSL. Accès aux novices. attaque du ciel. Horizon de longues jambes dans mon écran. Allure de jardin d'enfants, où le sable serait mouvant. On est interné dans l'internet. On nous y observe à la lunette. Les géants hilars se payent notre tête.
Attention à la foudre, n'est pas grand comme qui veut.
Ça sent déjà la poudre, les conséquences seront lourdes.
Attention à la foudre, n'est pas grand comme qui veut.
Voici des temps bien troubles, c'est l'heure de nous donner ce qu'on veut.
Saint-Art, Internet sur les ondes de Radio Campus Angers, vous êtes toujours à bord du pédalo.
Le pédalo sur Radio Campus Angers.
Mercredi dernier, la ville d'Angers et Angers-Loire Métropole ont subi une attaque informatique qui a rendu les sites internet inaccessibles pendant de longues heures. Et avec nous pour en parler, donc Jérémy Pogent, administrateur réseau et sécurité à l'école d'ingénieurs de l'avenir responsable. Bonsoir.
Bonsoir.
Avec nous également Luc Dufresne, responsable de la sécurité du service informatique d'Angers-Loire Métropole. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, on a énormément de choses à se raconter. J'ai énormément de questions pour vous. On va y aller dans l'ordre avec un petit point technique d'abord. L'attaque informatique dont la ville et l'agglo ont été victimes a été une attaque de type DDoS. Grosso modo, ça veut dire que cette attaque avait pour but de surcharger les serveurs et de rendre les sites internet inaccessibles. Est-ce que c'est ça ? Est-ce que j'ai bien compris ?
Oui, tout à fait.
Ouais.
Si on voulait...
Vous avez bien parlé dans le micro.
Oui, pardon, je suis un peu loin, pardon. Si vous voulez faire une comparaison, c'est comme si on avait une grosse manifestation devant la bibliothèque, c'est impossible de rentrer.
Voilà, alors là, les sites internet ont été inaccessibles. Moi, il y a instinctivement une question qui me vient quand je vois ça, c'est à quoi ça sert pour des pirates venus d'ici et d'ailleurs de rendre inaccessible le site de la ville d'Angers ?
C'est difficile à savoir de manière certaine. C'est souvent lié à des questions géopolitiques. Enfin, pour nous, collectivité territoriale, pour une ville, si on est attaqué de cette manière-là, c'est parce qu'on est une ville française. L'idée, c'est de faire un bruit en disant, nous, attaquants, groupe d'attaquants, alors, il y a des revendications, mais on ne sait pas si c'est réel, et puis ce n'est pas moi, mon travail, de savoir exactement qui m'attaque, mais une revendication en disant, voilà, on s'en prend à la France, la France n'est pas sécurisée informatiquement, l'idée c'est de faire peur, de faire du buzz, de faire de la désinformation, enfin, on peut imaginer beaucoup de choses de ce type-là.
Ouais, vous partagez ce constat, Jérémy Pogon ?
Oui, tout à fait, dans ce cas-là, c'est plus pour des revendications politiques. Après, il y a des attaques des doses qui permettent aussi de mettre à mal des sites de e-commerce. Et l'idée après, c'est de demander une rançon pour justement libérer un petit peu l'espace. Un site de e-commerce qui est inaccessible pendant plusieurs heures, et ben c'est potentiellement plusieurs millions de chiffres d'affaires en moins. Et donc dans ce cas-là, oui, on peut demander une rançon. Mais pour une collectivité, oui, ça va être essentiellement une revendication politique.
Une revendication politique, c'est vrai qu'on peut se poser la question, puisque cette attaque, elle n'est pas intervenue à n'importe quand, à n'importe comment. Plusieurs autres villes comme Nantes, Reims, Montpellier ou Nîmes ont aussi subi ce même type d'attaque ces dernières semaines.
Oui, tout à fait. Via des canaux un petit peu entre nous, on voit que c'est lié et ça permet aussi de prévenir certaines collectivités à l'avance. Parce que voilà, il y a certaines personnes qui peuvent avoir accès à des informations sur les canaux de hackers et de prévenir à l'avance. Donc oui, on sait que c'est potentiellement plus ou moins lié. Et ensuite, après, ce qui est difficile dans ces attaques informatiques, c'est est-ce que c'est réellement les attaquants qu'il y a derrière, ou est-ce que c'est des petits malins qui s'amusent aussi à se faire passer pour ces attaquants. C'est difficile d'être sûr à 100%, mais on peut avoir une tendance. Oui.
Alors, selon Marie Gréco, journaliste à France 3 Pays de la Loire, l'attaque a été revendiquée sur Telegram par un groupe de hackers pro-russes, le collectif NoName05716. Vous avez vu passer cette information. Qu'est-ce que ça vous inspire ?
Oui, alors c'est dans la continuité de ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il y a certainement des motivations géopolitiques, l'envahissement de l'Ukraine par les Russes, l'arrestation du patron de Telegram peut-être.
Pavel Durov.
Ouais. Voilà, ça, les JO, les Jeux paralympiques, c'est vrai que c'est un aspirateur à attaque, l'idée étant de faire un bruit en disant bah, oui, peut-être que la France n'était pas préparée. Bon, c'est pas le cas, hein. Visiblement, il ne s'est pas passé grand-chose pendant cette période olympique. Mais voilà. Après, les services d'enquête vont essayer de farfouiller avec les éléments techniques qu'on va leur remonter. Peut-être qu'un jour, ils iront jusqu'à un groupe d'attaquants. Voilà. Pour moi, c'est un peu moins important. Ce qui est plus significatif, c'est ce que disait Jérémy. C'est que nous, en tant que responsables sécurité, on discute entre nous, on se partage ces indicateurs, on se prépare. Effectivement, quand ça nous est arrivé mercredi, nous, on était au courant, on savait que ça se passait dans notre collectivité. On se prépare. Bon, pas de chance, les mesures qu'on a pu mettre en place précédemment n'ont pas fonctionné. Mais une fois le créneau passé mercredi, voilà, on a encaissé. Depuis, ça a l'air de fonctionner et tenir.
Ces attaques de type DDoS, est-ce que c'est grave ? J'ai l'impression que c'est pas très grave.
Ça dépend pour qui. Le site de e-commerce, c'est dramatique. C'est-à-dire que si on s'appelle Amazon, Fnac ou je ne sais quoi, il faut peut-être pas dire des noms de marques trop souvent, c'est de l'argent tout de suite perdu. Nous, c'est les horaires de piscine, c'est embêtant. Si vous voulez aller à la piscine et que vous vous souvenez plus quand ça ouvre, bon après peut-être que Google a une copie des horaires, c'est le programme des accrocheurs qui arrive là ce week-end, donc c'est gênant.
C'est juste une gêne, quoi.
C'est passager. Ce qui est important, c'est que pour les employés de la mairie, hein, on a 3000 personnes qui travaillent derrière un ordinateur, c'est pour eux un non-sujet. C'est-à-dire qu'ils ont continué à travailler même sans savoir que le site web public n'était pas disponible.
Alors que contrairement à l'attaque qui avait eu lieu il y a quelques années, là c'est les postes informatiques de tous les personnels de la mairie qui avaient été touchés. Hein. C'est pas du tout le même type d'attaque, attaque-là et celle qu'il y a eu il y a 2 ans.
Voilà, tout à fait.
Et en fait, il y a rarement de destruction suite à une attaque DDoS. Il y a surtout un empêchement d'un service de fonctionner correctement. Mais derrière, il y a rarement de la destruction de données ou une destruction de matériel ou autre. Donc on s'en remet assez sur pied assez facilement.
Selon Bruna Grunewald, qui a été interrogée par France 3 Pays de la Loire, on en parlait avec Luc Dufresne juste avant de rentrer dans le studio. Chaque média a un peu son spécialiste cybersécurité. Nous, chez nous, c'est vous, Jérémy Pogeant, mais à France 3 Pays de la Loire, c'est Benoît Grunewald. Et ben en fait, ces attaques, elles pourraient avoir un lien avec l'arrestation du patron franco-russe de Telegram, Pavel Durov. C'est vrai que ça s'inscrit dans un contexte géopolitique qui est très tendu entre l'Union européenne, la France en particulier, et la Russie, avec cette guerre russo-ukrainienne. On parle beaucoup de cyberguerre entre la Russie et l'Ukraine. Est-ce que vous pensez qu'il y a un risque que cette cyberguerre touche aussi la France ? Est-ce que peut-être on est déjà en cyberguerre ? Est-ce que ce terme de cyberguerre vous semble pertinent ?
Bah oui, c'est pertinent. C'est tout à fait d'actualité. En fait, il y a souvent, très souvent, des attaques qui sont faites physiquement sur des infrastructures physiques. Par exemple, il y a quelques années, il y a eu des attaques sur les fibres optiques qui convergent. Il y avait beaucoup de fibres optiques sous-marines qui convergent à Marseille. Et il y a eu des attaques pour couper simultanément plusieurs fibres optiques et voir un petit peu comment se comporte le réseau. Donc ça, typiquement, c'est de la cyberguerre. C'est pour voir un petit peu une évaluation des forces et voir comment se comporte le réseau. Est-ce que c'est facile d'y accéder à ces fibres-là ? Est-ce que Internet survit à ce genre de coupure ? Et potentiellement pour lancer une attaque un petit peu plus importante. Donc c'est Oui, c'est pas étonnant. Il y a aussi bien que la guerre physique, je veux dire, entre deux armées, eh bien, il y a aussi une guerre, une cyberguerre pour mettre à mal ou même évaluer des forces entre États. Aujourd'hui, toutes les infrastructures sont sur informatique. Hein. Vous voyez, même à la radio, vous dépendez de l'informatique. Nous, pour tout ce qui est la distribution d'énergie, la gestion des centrales, etc., c'est de l'informatique. Donc, il y a des réseaux. Donc, potentiellement, si vous voulez mettre à mal un État ou éteindre juste les lumières, entre guillemets, bah oui, ça peut passer par là. C'est même un canal plus facile que d'attaquer un État physiquement, via des bombes ou autre.
Ça se fait à distance.
Ça se fait à distance. C'est...
Luc Dufresne, vous êtes donc responsable de la sécurité du service informatique d'Angers-Loire Métropole. En entendant ce que dit Jérémy Pogent sur ce risque de cyberguerre, terme qui n'est pas galvaudé, comment se préparent des institutions comme Angers-Loire Métropole, la ville d'Angers? Est-ce qu'il y a des mesures qui sont mises en place, des process qui sont appliqués pour prévenir, anticiper ces attaques qui pourraient avoir lieu et qui ont déjà lieu d'ailleurs?
Alors on a une chance en France, c'est qu'on a une agence qui s'appelle l'ANSSI, Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d'Information, donc ils sont à Paris, hein, ils sont 600 ou 700 personnes, donc c'est quand même une grosse maison. Ils travaillent aussi pour nous, nous, organisation. Et c'est vrai que dès les premiers mouvements des armées russes vers l'Ukraine, l'ANSSI a envoyé ses recommandations. C'est-à-dire qu'il y a effectivement, dans ces temps, une vigilance à avoir, une surveillance, des informations à ne pas manquer. Et je rebondis sur ce que disait Jérémy. C'est vrai que les actions de cyberguerre peuvent baver un petit peu. C'est-à-dire que quand un État, comme la Russie, produit des codes malveillants, des virus, ils ciblent l'Ukraine, mais ils peuvent aussi se répandre ailleurs. Et on a un exemple, hein, il y avait des liaisons satellitaires utilisées par l'Ukraine qui ont été visées par les Russes. Et un effet de bord, c'était la coupure de communication vers des éoliennes en Allemagne, il me semble. Donc... voilà, ça bave pas mal, et ça nous oblige, nous, un petit peu plus loin de l'Ukraine, mais pas si loin que ça, à avoir cette vigilance, à maintenir un état de l'art des pratiques informatiques, et mettre, oui, quelques mesures de protection, de surveillance, et pouvoir réagir aussi. Hein, si moi je reviens à 2021, ce qui était important, quand tout est détruit, il faut imaginer que tout peut être détruit à un moment, mais il faut avoir ces données au coffre-fort. Et pouvoir repartir, s'entraîner à repartir, savoir gérer une crise.
Donc 2021, donc l'année à laquelle la ville d'Angers avait subi cette énorme cyberattaque qui avait paralysé tous les services de la mairie pendant des mois. Là, par contre, hein, carrément les bibliothèques municipales avaient dû fermer et tout. Jérémy Pogent, comment est-ce que vous travaillez, vous, avec vos étudiants, à ces risques et à ces nouvelles manières de faire la guerre?
On en parle déjà, et surtout on fait un état des menaces. On va, en tout cas dans les cours qu'on leur donne, on fait un état des menaces, c'est-à-dire qu'on voit à peu près aujourd'hui l'état actuel des menaces actuelles qui peuvent peser sur différentes entreprises, et on leur apprend à faire des analyses de risques, et tout en partant du principe que ces risques-là, il y a des cas concrets, réels. On consulte des rapports aussi qui sont faits par des organismes orientés cybersécurité, pour voir que concrètement ces risques sur lesquels on va travailler, il y a déjà eu des cas, et que c'est pas si déconnant que ça que de travailler dessus et de trouver des contre-mesures adaptées. Après, il faut partir du principe que est-ce qu'on va se faire attaquer ? C'est pas la question, c'est quand est-ce qu'on va se faire attaquer ? Est-ce qu'on est prêt ? Comment on va réagir ? Est-ce qu'on a un plan ? Est-ce qu'on sait réagir en cas de crise ? On fait des exercices de gestion de crise, parce que c'est bien de faire tout sur papier, mais au bout d'un moment, avec le stress, on perd beaucoup nos moyens, que ça soit intellectuel ou même on va pas forcément avoir le temps, il faut répondre très rapidement. Après, c'est humain, donc faut s'entraîner. Donc on a aussi des entraînements à la gestion des crises.
Des entraînements que vous suivez à Angers-Loire Métropole, Luc Dufresne?
Alors, on rentre dans ce système-là, hein, il faut faire des entraînements à plusieurs niveaux, je dirais que même entraîner de l'utilisateur, déjà. Il n'y a pas que les équipes qui gèrent la crise, l'utilisateur, il faut aussi qu'on l'entraîne à ne pas cliquer sur un lien reçu dans un mail. Et c'est vrai qu'on fait tous à peu près ça maintenant dans les entreprises. On envoie des faux messages. Et puis, l'équipe sécurité s'amuse à regarder. Il y en a 5% qui ont cliqué. Donc, on va aller accompagner ces utilisateurs-là. Donc on est dans un entraînement bienveillant, on piège de manière bienveillante.
C'est vous qui faites apparaître le clown à bascule sur l'écran de l'utilisateur d'Angoulême Métropole.
Oui, on va lui promettre des billets pour les JO, par exemple. Hein. J'ai entendu quelqu'un, enfin, ça a dû être fait dans la gendarmerie, je crois. Vous avez deux places pour assister aux JO, et on regarde qui clique, quoi.
Moi, je clique.
Voilà, oui, tout à fait.
Instantanément.
L'idée, c'est pas de stigmatiser la personne en disant vous êtes nul, vous avez perdu, mais plus leur dire ah bah désolé, voilà ce que vous auriez pu voir dans le message. Bon, c'est un entraînement gentil, bienveillant, mais qui fait monter le niveau de sécurité global. Après, l'utilisateur n'est pas l'unique menace. La sécurité, c'est toute une chaîne.
Oui, justement, c'est la question que j'allais vous poser. Comment ça s'est passé, là, cette attaque DDoS qui a eu lieu mercredi dernier? Est-ce que c'est un lien sur lequel quelqu'un a cliqué? Ça arrive vraiment de manière... c'est une attaque qu'on subit et elle n'a pas été déclenchée par une action humaine, sauf celle des hackers, évidemment?
Non, après, nous, Angers, on n'est pas forcément connus en Russie, je pense. Hein. On pourrait imaginer une société commerciale qui fait un peu de provocation et qui, par représailles, subit un DDoS. Mais nous, ce qui s'est passé, on a une adresse en angers.fr, on est rassocié à la France, on a été observé, c'est-à-dire que sur Internet, on est scanné en permanence. Que ce soit un ordinateur personnel ou les réseaux d'entreprise, il y a de la reconnaissance. Et puis, au moment opportun, les attaques ont été déclenchées à Angers, mais d'autres communes, d'autres départements, d'autres régions. Et c'est l'effet de masse. Et si ça ne fonctionne pas à Angers, ce n'est pas grave. On va aller attaquer les communes à côté. Ce qui est important, c'est de pouvoir afficher une revendication en disant il y a 5-10 communes qui sont tombées. Hier soir, on a eu une petite vague de DDoS qui n'a eu aucun impact. On n'était pas sur la revendication s'il y a eu une revendication. J'hésite à dire que c'est un jeu. C'est pas un jeu parce que il y a des conséquences réelles. Le service n'est pas rendu, c'est embêtant, il faut l'éviter. Mais
entre les hackers et les services de cybersécurité, c'est un peu vu comme effectivement le jeu du chat et de la souris.
Gendarme et le voleur. Cette question du DDoS, c'est aussi vieux qu'Internet. Dès les débuts d'Internet, on s'amusait à faire tomber un serveur, on testait, voilà, on va dire ça. Mais les impacts n'étaient pas forcément les mêmes. Jérémy le disait tout à l'heure, on est dépendant du numérique, on est dépendant de l'informatique partout. Si j'avais pas mon téléphone tout à l'heure, je serais pas arrivé à l'heure. J'ai tapé Radio Campus, je suis arrivé, et je savais exactement qu'il me fallait 20 minutes de marche. Donc on est ultra dépendant, donc ce que disait Jérémy, c'est qu'il faut vraiment qu'on connaisse nos risques. Qu'est-ce qui se passe si j'ai plus d'informatique, si ça dysfonctionne? Et quelles mesures je viens appliquer pour sécuriser? Parce que la sécurité parfaite, on ne l'atteindra jamais, ça coûte excessivement cher. Moi, je dépense de l'argent public, hein. Je suis dans une collectivité territoriale, je ne vais pas dépenser à outrance s'il n'y a pas de risque. Et après, il y a des mesures obligatoires, des freins sur une voiture, c'est obligatoire. Et il y a des mesures, c'est en fonction de son risque, un casque à vélo, chacun décide s'il met son casque ou pas, quoi.
Et est-ce que vous investissez beaucoup en cybersécurité? Est-ce que Angers Métropole...
Est-ce que je mets un casque? Oui.
Oui, est-ce que vous mettez un casque?
Oui, alors, on est dans une démarche de sécurisation permanente. Hein, la menace évolue, la réglementation évolue. On a subi un gros événement. On était déjà dans une démarche de sécurité. On n'a pas avancé assez vite. On a accéléré cette démarche. Et oui, les budgets de sécurité augmentent. Et je reviens à l'ANSSI, la fameuse agence nationale. La bonne pratique prêchée par l'ANSSI, c'est dépenser 5 à 10% de votre budget informatique dans la sécurité.
Les EP aussi partagent ce constat?
Ah oui, tout à fait. Oui.
Ouais.
Ouais. Ouais. On est une population d'étudiants assez taquins, vu qu'on fait de la
joueur.
Joueurs.
Joueuses, oui.
Oui, joueuses. Eux, ils s'entraînent. Enfin, eux s'entraînent à piéger les systèmes informatiques de l'école dans laquelle ils apprennent.
Exactement.
Alors, oui, je pense que ce qui est aussi important chez vous, c'est aussi d'apprendre une certaine éthique.
Oui.
Voilà. Il y a des plateformes pour jouer, pour tester. Vous avez des plateformes pour former les étudiants.
Oui.
Et puis après, on respecte le système qui stocke les notes, on ne l'attaque pas.
En théorie, oui. Mais oui, dans leur cursus, effectivement, il y a toute une pratique. Ils sont certifiés certifiés ethical hacker. Donc, on leur apprend à hacker, mais de façon éthique. C'est-à-dire, attention, c'est bien de savoir, vous avez des outils.
Chevalier blanc du web, en fait.
Exactement. Exactement. Et après, c'est comme Luc, hein, faut savoir des bons côtés de la force.
Oui, et puis... Moi, j'utilise après les talents des jeunes ingénieurs ESEP. J'en ai un, bientôt deux, avec moi. Et nous, notre objectif, c'est aussi d'éprouver nos systèmes en interne. C'est-à-dire que on n'a jamais tout bon du premier coup. Mmh. Et en permanence, on audite, on vérifie, on fait ce qu'on appelle du test d'intrusion, ou en anglais, pen test. Ça fait arriver, là, on voit le hacker avec la capuche qui arrive. Mais l'idée, c'est de trouver, avant un acteur malveillant, les petits trous, les petites erreurs, et on les corrige. Donc on est en permanence dans cette démarche de sécurisation, parce que le système parfait, malheureusement, n'existe pas, quoi. C'est humain.
On va revenir un peu sur l'attaque d'Edos qu'a subi la ville d'Angers et l'agglomération d'Angers-Loire Métropole mercredi dernier. Vous nous disiez tout à l'heure, Luc Dufresne, que l'attaque n'était pas encore endiguée, en fait, et que encore hier soir, vous avez eu une vague d'attaques. Comment on fait pour endiguer une vague d'Edos? Pourquoi est-ce que encore maintenant, alors que l'attaque a eu lieu mercredi de la semaine dernière, il y a encore des répercussions sur le site internet? Les sites internet.
Parce que l'attaquant est un petit peu joueur, il continue à essayer. C'est-à-dire que pour avoir un impact quand on fait une attaque des doses, c'est que des fois il y a des petites faiblesses qui vont être trouvées, exploitées. Donc nous, notre premier réflexe, c'est de dire ah zut, on a oublié quelque chose, on va corriger. On va filtrer, on met en place des filtres qui redirigent le trafic et envoient ça vers nulle part. Et au fur et à mesure, on monte un petit peu notre niveau. Et ce qu'on constate, c'est que l'attaquant, il monte aussi son niveau. C'est-à-dire que ça lui coûte de plus en plus cher de nous attaquer. Pour envoyer un gros volume de trafic, ben, il sort un petit peu plus de moyens. Et puis, voilà, on joue au chat et à la souris. À un moment, il va se lasser. Et puis, il passera à quelqu'un d'autre parce que ça sera moins cher d'attaquer quelqu'un d'autre. Donc, on est là, je pense, dans ce moment post-attaque. Moi, j'espère franchement que les moyens supplémentaires ne vont pas être sortis parce que nous, ça nous prend un petit peu de temps quand même. Hein. Moi, j'ai, avec mes collègues, un petit peu géré des urgences. Mais on a des moyens supplémentaires, c'est-à-dire que pour l'instant on a filtré chez nous, sur nos infrastructures. S'il y a encore une marche qui est franchie, on peut aussi s'aider de notre opérateur qui nous fournit l'accès à Internet. Il a lui aussi des solutions qui peuvent même se déclencher automatiquement pour venir filtrer le trafic qui arrive chez nous et nous envoyer un trafic propre sans ce volume nous attaquant.
Je suppose que vous avez vu passer ça dans la presse. Encore aujourd'hui, l'enseigne Cultura a été victime d'une cyberattaque. Ce week-end, c'était Boulanger, enseigne d'électroménager. Toutes ces deux enseignes ont vu dérober des millions et des millions de données sur leurs clients. Ces données qui sont maintenant dans la nature et on va pouvoir recevoir encore une certaine quantité de coups de téléphone pour nous vendre du double vitrage ou nous dire que notre carte bancaire est arrivé à son terme, donc il faut redonner son code de carte bancaire par téléphone. Évidemment, ne faites jamais ça. Ne faites jamais ça. Pour rassurer nos auditeurs et auditrices, l'attaque d'Edos qui touche la ville d'Angers et Angers-Loire Métropole, il n'y a aucun risque de fuite de données.
Non, et puis c'est une plateforme attaquée qui ne contient aucune donnée personnelle. On est là sur un site, je vais dire entre guillemets plaquette, un site institutionnel où il y a les horaires de la piscine, hein, et plein d'autres informations, il y a énormément de choses, mais il n'y a aucune donnée personnelle, on ne gère aucun... Il y a vraiment une séparation entre ce site public et l'informatique de gestion bureautique que l'on peut avoir.
Et donc, cette attaque qu'est en train de subir Angers-Loire Métropole et la ville d'Angers, ça n'a rien à voir avec les attaques qu'ont pu subir Cultura et Boulanger ce week-end?
Non, ça n'a rien à voir. Là, c'est clairement de la recherche de données pour les revendre ensuite sur des marchés parallèles. La motivation est essentiellement pécuniaire. Il n'y a pas de revendication à ce niveau-là.
Pas de revendication politique?
Non. C'est deux choses différentes, bien différentes. Et c'est parfois ce qui n'est pas vraiment clair dans les médias. On parle d'attaque informatique en termes généraux, alors que les motivations des attaquants sont totalement différentes à chaque fois. C'est ça qui manque un petit peu de pédagogie dans les médias, je trouve.
Mais vous êtes là, sur les ondes de Campus Angers, pour en faire de la pédagogie. C'est pas mal, ça, de la pédagogie. Peut-être qu'on va conclure cet échange par quelques règles de prudence de base que les auditeurs, auditrices de Radio Campus peuvent appliquer pour se prémunir d'une attaque informatique.
On est parti jusqu'à 23h.
Après, la règle de base, c'est d'utiliser des mots de passe forts, sécurisés, et éventuellement un gestionnaire de mots de passe si vous pouvez, et franchement, je vous le conseille. Et faites attention au lien sur lequel vous cliquez, ne donnez pas vos informations personnelles à n'importe qui, et voilà, normalement, ça devrait bien se passer.
Oui, moi j'en rajoute un, sauvegardez vos données aussi.
Ah oui,
voilà. Si vous avez des données précieuses, les photos des enfants, les photos de la dernière fête, enfin, n'importe quoi, mettez ça sur un disque dur à côté, sur un un drive quelconque, mais plus il y a de copies de données, mais sécuriser quand même l'accès à ces données, parce qu'il ne faut pas non plus le mettre sur un drive accessible à tout le monde. C'est...
Eh bien, écoutez, merci beaucoup à tous les deux, Jérémy Pogeon et Luc Dufresne, d'avoir répondu à nos questions à bord du pédalo. Vous avez bien compris, chers auditeurs, auditrices de Radio Campus Angers, faites attention à vos données, sauvegardez tout, parce que même si jamais, par exemple, votre carte mère d'ordinateur rend l'âme...
Oui, oui, ça, une panne informatique,
hein. Voilà, c'est ça, c'est pas que les cyberattaques, non. Sauvegardez vos données, ça m'aurait évité de perdre tout un tas de trucs, pas plus tard que la semaine dernière. Merci beaucoup, en tout cas, merci à tous les deux. Merci, je le rappelle, Jérémy Pogeon, administrateur système, réseau et sécurité à l'ESEP, et Luc Dufresne, responsable de la sécurité du service informatique d'Angers-Loire Métropole. Le pédalo termine sa traversée sur les ondes de Radio Campus Angers. Nous, on se retrouve dès demain à bord du pédalo avec Benjamin Briand-Boucher, membre du bureau national de l'UNEF, le syndicat étudiant. On reviendra avec lui sur le rapport qu'ils viennent de publier. À Angers, le coût de la vie étudiante a augmenté de près de 3,25% par rapport à la rentrée dernière, et ça s'établit à peu près à 1 090 € par mois par étudiant. Alors, quelles sont leurs revendications? Comment l'UNEF envisage cette nouvelle année à venir pour les étudiants? On en parle demain dans le pédalo. Alors, d'ici là, très très bonne soirée à toutes et à tous sur le Centre FM. Et surtout, n'oubliez pas, les bonnes ondes, c'est pour tout le monde.
À retrouver en podcast sur le www.radiocampusangers.com.